Donc nous allons passer tout de suite à l'ordre du jour, puisqu'il n'y a pas eu de questions particulières de poser. Donc nous allons tout de suite aborder le projet de finances, donc la délibération du débat d'orientation budgétaire et la présentation du ROB. Donc Charles-Alexandre, je te laisse la parole.
Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme chaque année, nous avons un débat sur l'orientation des finances communales. Et donc ceci s'appuie sur un ROB, donc un rapport assez qui me paraît très complet. Bien évidemment, je ne vais pas le lire en entier, à moins que vous le souhaitiez, mais je ne pense pas qu'il y ait besoin de lire l'ensemble. Je vais faire donc un résumé, une synthèse, un résumé avec une projection des données qui nous semblent importantes sur le mur. Donc, comme chaque année, je suis chargé de présenter et d'animer le débat d'orientation budgétaire. Exercice périlleux, car il faut être pédagogue dans un minimum de temps. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je le fais chaque année, mais je souhaite remercier le service finance pour le travail accompli, les nombreux documents qui sont fournis aux élus et les réponses qui sont également apportées quand des questions sont posées. Donc, je vous propose de passer à la première diapo. Donc, comme d'habitude, on parle du contexte économique très large. Il est tradition de présenter le contexte macroéconomique. Vous voyez qu'il est qualifié d'incertain dans la diapositive. J'ai bien parlé du contexte macroéconomique et pas du contexte macroéconomique, quoique ça peut être à peu près pareil, hein, parce que quelquefois, on ne sait pas quelle sauce on va être mangé. Mais bon, blague à part, la croissance mondiale devrait stagner. Pareil pour le niveau européen. Des tensions existent, vous les connaissez tous, aux États-Unis, en Algérie et le Brexit, encore l'actualité d'hier soir, enfin de la nuit. Ce qui pourra avoir des répercussions sur le budget national et par voie de conséquence sur le nôtre, parce qu'en général, l'État, quand il y a besoin de faire des économies, il s'adresse aux collectivités avant de regarder son propre budget. Au niveau national, donc ça, c'est la deuxième diapositive. Les prévisions de croissance ne sont pas non plus florissantes. Le taux de chômage avoisine les 9%. Ces statistiques, vous les connaissez, donc on ne sait pas du tout ce qui va après arriver pour les communes. Je vous rappelle un peu le contexte dans la troisième diapositive, le contexte global, le cadre qui est posé avec l'État. Donc, au niveau des collectivités territoriales, une obligation de maîtriser ses dépenses ainsi que son endettement. Donc nous ne sommes pas concernés car nous sommes d'une taille très modeste. Donc nous ne sommes pas concernés. Cependant, le département et la MEL et la région sont concernés. Ce sont des collectivités partenaires, des collectivités majeures. Ces obligations, donc nous les respectons, la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement et également la maîtrise de notre endettement. Pour la diapositive 4, donc ce sont les demandes, ce sont les statistiques un peu plus locales. Donc après plusieurs années de baisse, il y a une augmentation du nombre de demandes au niveau du Centre communal d'action sociale. Il est à noter quand même que le taux de chômage diminue. Comment dire, la catégorie qui diminue le plus fortement, c'est celle des moins de 25 ans. Et là, on peut vraiment penser que la mission locale a un rôle particulier dans cette baisse de chômeurs dans cette catégorie. Évidemment, je rappellerai le forum intérimaire, mais il y a aussi énormément de choses qui se font peut-être moins médiatiques, mais qui portent leurs fruits. Il y a également la garantie jeune, un ancien dispositif du gouvernement précédent, qui est, je pense, quelque chose d'intéressant pour l'accès à l'emploi des jeunes. Il faut aussi remarquer que le taux de logements sociaux dans notre commune est de 23%, donc on est quasiment au niveau requis par la loi SRU. Au niveau de la diapositive 5, donc je souhaite faire un point sur la taxe d'habitation. Je pense que ça mérite d'être posé, ce débat. Le fait que des contribuables, que des Lissois paient moins d'impôts, je pense que tout le monde est d'accord. Le fait qu'il y ait plus de lien entre certains habitants et la commune, rien qu'un lien symbolique financier, c'est un peu plus contestable. Mais le fait qu'aujourd'hui, les communes ne savent pas comment cette compensation va être faite, ça commence quand même à être inquiétant. Est-ce que ce sera un nouvel impôt ? Est-ce que ce sera un transfert ? On n'en sait rien. Il faut quand même rappeler que pour nous, parce que d'autres collectivités sont également touchées, mais la part de la taxe d'habitation est très faible, et plus faible que pour nous. Nous, notre commune, 19,30% des recettes, c'est la taxe d'habitation. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout comment cela va être remplacé. Et il ne faut surtout pas que ce soit une dotation fixe, comme ce qui avait été fait avec la dotation de compensation pour la taxe professionnelle, qui, chaque année, on prend une part, donc la dotation diminue, donc nos recettes diminuent. Donc il faudrait vraiment savoir, enfin, ce serait, c'est pas la ville de Lys qui va exiger, on en fait la demande, mais c'est pas, on pense pas que l'État répondra juste à notre demande, mais ce serait quand même intéressant qu'on sache rapidement la méthode de compensation de cette, pour la disparition de la taxe d'habitation. Maintenant, je vous propose, dans la diapositive suivante, d'entrer dans le vif du sujet. Donc, au niveau de nos recettes de fonctionnement, donc vous avez un tableau projeté qui répertorie les dotations perçues par notre commune. Donc ça, c'est les dotations de l'État. Toute dotation confondue depuis 2013, nous avons dû faire face à une baisse de presque 700 000 euros. Sans la faible hausse de la DSU et de la DNP, la baisse serait de 800 000 euros. Donc grâce à cette légère augmentation, on a eu 100 000 euros de réserve, on va dire. 800 000 euros, c'est 7 points d'impôt en plus au niveau de la taxe foncière. Le calcul sur la taxe d'habitation est inutile vu que l'impôt disparaîtra. Le taux aujourd'hui, sans maîtrise de nos dépenses, serait de 37,21%. C'est 23% de hausse de la taxe foncière, juste du fait de la baisse des dotations de l'État. Sans, bien sûr, évidemment, prendre en compter les dépenses supplémentaires du fait de la charge donnée aux communes à la place de l'État depuis 2013. Et bien évidemment, cela était aussi... Il y avait quand même des missions antérieures, des données antérieures, pardon. Diapositive numéro 7. La ville perçoit en principe une DGF pour faire face aux dépenses obligatoires. Donc là, vous voyez uniquement la DGF. Sur le tableau, vous voyez que l'État nous donne 85,09 € par habitant pour cette année 2019. Et on ne va pas faire de calcul, mais il serait quand même intéressant de voir le coût des missions assumées par la commune par et à la place de l'État. Et on verrait que la dotation est insuffisante par rapport à ce que nous faisons à la place de l'État. La diapositive numéro 8 va intéresser encore plus de personnes. Je pense à des personnes qui sont dans le conseil. Chaque année, on parle de la part des dépenses de personnel dans l'ensemble des dépenses de fonctionnement. Ça fait débat. Vous voyez que nous prévoyons que cette année... que cette part représentera 60% des dépenses de fonctionnement. Évidemment, certains peuvent penser que c'est une part qui est élevée, qui est quelquefois croissante. Mais si on diminue les autres postes de dépenses de fonctionnement et que celle-ci reste stable, mécaniquement, la part augmente. Mais je tiens aussi à préciser, je le dis chaque année, je le redis souvent, mais qu'il y a des missions qui sont gérées directement par notre personnel municipal. On pourrait maquiller ou transférer ces dépenses sur un autre compte qui serait en charge générale en faisant du travail en externalisé. On peut penser aux espaces verts, on peut penser bien évidemment à la restauration municipale, on peut penser à la propriété urbaine et à certains services qui sont offerts aux services techniques. Je ne vais pas faire la liste à la Prévert, mais je souhaitais préciser quand même les choses. Il faut aussi noter qu'il y a une volonté municipale dans certaines dépenses. Ce sont des dépenses extra-municipales, mais nous assumons ce choix. C'est une ATSEM par classe. Je le répète dans les conseils d'école avec M. Wallerand et avec M. le maire. Mais c'est un choix important d'avoir, de donner les meilleures conditions d'apprentissage aux enfants. Il faut aussi prendre un dernier exemple, c'est la police municipale. Il faut savoir que la police municipale, ce n'est pas une mission obligatoire des communes. C'est un choix qui a été fait il y a presque 25 ans. Personne aujourd'hui remettrait en cause ce service. Et pourtant, aujourd'hui, la police municipale fait le travail de la police nationale du fait d'un manque de moyens affectés aux agents de la police nationale, qui ont quand même du courage. Ensuite, pour la diapo suivante, je vais parler rapidement de la dette de la commune, on y reviendra. Je rappelle que notre commune est moins endettée que la moyenne des communes de la même strate. Notre dette est légèrement inférieure à 9 millions d'euros. Comme chaque année, je vais le répéter aussi, nous n'avons, et ça c'est un choix qui a été fait, je pense, depuis toujours, donc toutes les majorités précédentes, la ville n'a pas d'emprunt toxique, et quand il y a un emprunt qui a été souscrit, si un taux était variable, il était uniquement indexé sur le livret A. Donc là-dessus, tous les choix qui ont été faits en matière d'emprunt ont toujours été, c'est mon sentiment personnel, mais en tout cas, je pense que la majorité, et je pense que même l'ensemble des conseillers le pensent, c'est un principe de prudence et ça permet quand même d'avoir une vision claire des choses. Maintenant, que va-t-il se passer en 2019 ? Quelles vont être nos recettes ? Nos recettes de fonctionnement sont prévues à la hausse de 0,54%. Les bases fiscales vont être valorisées de 2,2%. Les recettes de la CAF devront être en hausse. Les tarifs des services publics communaux ne seront pas augmentés, hormis peut-être les concessions funéraires. Mais tout le reste, normalement, il n'y aura pas d'augmentation, bien que les prix alimentaires repartent à la hausse. Au niveau de nos recettes, je tiens également à souligner la suppression des contrats aidés qui pèsent sur les emplois d'avenir qui pèsent sur notre budget, car ces contrats avaient quand même une mission de formation que nous avons respectée et qui permettait à certains jeunes de mettre le pied à l'étrier. Et on ne l'a pas fait, mais ce serait intéressant de le faire. Je pense que je vais le faire pour le budget. C'est compter le nombre d'employés municipaux titularisés qui ont commencé leur carrière en tant que contrat aidé au sein de notre collectivité. Et donc, on pourra pas. Ça permettra aussi de contredire l'argument disant que les collectivités profitent de l'effet d'aubaine des contrats aidés. Il y a quand même la ville de Lys a toujours respecté le contrat moral entre l'emploi aidé et la mission et le salaire plus moins import, la part moins importante que la ville met au départ pour l'agent. Mais la nouvelle la plus importante, évidemment, c'est la baisse d'1% de la taxe foncière, ce qui portera le taux à 29,95%. N'ayant pas eu de questions ni même de remarques en commission à ce sujet, je pourrais passer rapidement, sans doute, sur la mesure qui va intéresser les Lissois. Mais je vais quand même poser deux questions. Pourquoi baisser uniquement la taxe foncière ? Ça, c'est la réponse va être très logique. Mais il serait inopportun de baisser la taxe d'habitation, qui est appelée à disparaître et qui devrait être intégralement compensée. L'année référence est celle de 2017. En baissant la taxe d'habitation en 2019, nous donnerions de l'argent à l'État. Et honnêtement,
on n'a pas envie.
On n'a pas envie. Pourquoi baisser cette année les impôts, année du début effectif du chantier Paul Bert, un projet à 9 millions d'euros ? Alors, je pense que tout le monde peut se poser cette question. On se l'est tous posé avec Monsieur le maire. On s'est entretenu de nombreuses fois. Avec Madame la DGS, pareil avec le service finance. Pourquoi baisser maintenant ? Tout d'abord, depuis 2014, nous avons dû faire face à la baisse des dotations, ce que j'ai expliqué, 800 000 euros, donc on va dire 700 000 du fait du gain de la DSU, mais c'est un peu plus contestable parce que normalement, ça devait déjà augmenter.
Nous avons réorganisé les services et diminué certaines dépenses. À titre d'exemple, un point de taxe foncière correspond à 35 000 euros. Ce sont les économies effectuées depuis 2014 qui permettent cela. En effet, la gestion du parc de véhicules, la politique courrier, la diminution des frais de réception permettent aujourd'hui cette situation. Pour illustrer cela, je vais prendre les frais de réception et les fêtes et cérémonies. La moyenne des dépenses entre 2009 et 2013 était de plus de 207 000 euros. Entre 2015 et 2018, 137 000 euros, soit une baisse de 70 000 euros. Donc, un plus du tiers du budget fêtes et cérémonies et réceptions économisé depuis 2014. 70 000 euros, 50% sont réaffectés à l'autofinancement et 50% sont réaffectés en baisse d'impôt sur ce poste. Dans le même temps, nous avons rétabli l'autofinancement de la commune, qui en 2013 était négatif, moins 165 000 euros. En 2018, il est de 718 000 euros. Concernant le projet Paul Bert, son financement sera étalé sur 3 exercices budgétaires. Il est plus facilement finançable. Cette baisse de 1%, bien évidemment, ça a une valeur symbolique. Ce n'est pas cela qui va révolutionner le pouvoir d'achat des Lissois. Mais dans le contexte que tout le monde connaît, dire que la baisse du train de vie de la commune permet une baisse d'impôt, je pense quand même que c'est un beau message. Ce travail est un travail d'équipe, coordonné par Monsieur le maire, effectué par nous élus, mais aussi et surtout par les agents de notre commune. Des choix difficiles ont été faits, mais dans le contexte que nous avons vécu, il n'y en avait pas d'autres. Sur la diapo suivante, vous voyez qu'effectivement, nous n'avons pas eu d'autre choix. La chute vertigineuse de la DGF, nous l'avons gérée depuis le début de notre mandat. Auparavant, les dotations étaient en stagnation, voire en augmentation. Le camembert projeté permet de voir la répartition de nos recettes de fonctionnement estimée à 14 410 000. Il est à noter que nous avons un excédent formidable de 857 000 euros, qui nous permet d'affronter l'avenir plutôt sereinement. Les dotations seront inférieures à 3 millions d'euros. Les ressources fiscales, qui représentent plus des deux tiers de nos recettes, sont évaluées aux alentours de 9,8 millions. Pour les dépenses réelles de fonctionnement, donc la diapo suivante, un peu plus de 13 millions d'euros. La part la plus importante reste évidemment celle des traitements des employés municipaux, à 7,9 millions. Les charges à caractère général représentent moins de 3 millions. Je tiens aussi à faire remarquer que nos charges financières sont faibles, et ceci grâce à la non-conclusion d'emprunts inutiles. Et évidemment aussi avec des taux qui sont bas. Diapo numéro 15. Sur le diagramme et le graphique projeté, vous pouvez observer que nous prévoyons une stabilisation de la masse salariale, tout comme nos autres dépenses courantes. Donc nous sommes quand même sur un rythme de stabilité de nos dépenses. Pour synthétiser, l'augmentation des dépenses devrait au maximum être de 1,14%. Une certaine stabilisation de la masse salariale avec une hausse due à l'évolution de carrière ainsi que la fin des emplois d'avenir. Une chose importante, c'est le maintien des services aux Lissois. Et nous le faisons. Et nous le ferons cette année encore. Pour les diapos suivantes, vous pouvez voir les principaux investissements de 2019. Et évidemment, la première, celle qui vous vient à l'idée, c'est le projet Paul Bert. Il faut également ajouter que ces investissements se font aussi dans d'autres écoles, l'école Marie Curie et l'école Anatole France notamment. L'extension du bureau de police municipale afin d'avoir un accueil digne de ce nom. La réfection et la mise en sécurité de l'église Saint-Luc. Je rappelle ici que c'est une dépense qui n'était pas prévue. Mais il faut sécuriser notre patrimoine et les riverains en sont également demandeurs. Surtout. Parce qu'il faut quand même que leur voiture et pour les risques des personnes, pour qu'il n'y ait personne qui ne soit blessé. Ce que l'entièreté des élus municipaux avait avalisé lors du dernier conseil. La réalisation d'un parking municipal réservé aux sportifs à côté de la salle Valeria Borza sur le site Ferry. La mise à niveau de l'éclairage public. Je tiens ici à rapporter un chiffre qui a été demandé en commission. C'est la baisse de 30% de la consommation en kilowattheure de l'éclairage public depuis 2014 grâce au travail effectué par les agents avec le concours de M. Boucher. Les travaux de sécurité et d'accessibilité classiques, vous pourrez me dire, c'est présenté. Cependant, ça ne l'est pas, car le travail qui est effectué par Mme Demey avec la DAP nous permettra d'être l'une des seules communes en France à respecter les normes quand le réfectoire de l'école Paul Bert sera accessible, ainsi que l'école même quand l'ascenseur sera posé d'ici quelques années. Cette année aussi, c'est la première année où nous n'avons pas investi pour les alarmes. Cela était l'une des premières décisions que nous avons dû prendre avec M. le maire et M. Mortier. Il faut quand même savoir que quand nous sommes arrivés, le local de la police municipale, le local des armes, n'était même pas protégé sous alarme. C'est un dossier qui était refilé de mandat en mandat depuis la fin des années 80. Et ça a quand même été plusieurs dizaines de milliers d'euros qui ont été dépensés afin de sécuriser le patrimoine, que ce soit les écoles, l'hôtel de ville ou d'autres bâtiments. À titre de conclusion, je pense que ces orientations et ces réalisations et ces résultats permettent de rassurer les personnes qui ont douté, peut-être légitimement, d'un gamin de 24 ans qui gérait les finances d'une ville de 13 500 habitants. En 5 ans, un resserrement des dépenses est effectué, une dette maintenue, une modernisation des services, de nombreux investissements importants également, la crèche, la vidéoprotection, les travaux dans les écoles, dans les salles de sport. C'est quand même un beau travail pour une équipe qui est qualifiée par certains d'amateurs. Je suis disponible afin de répondre à vos éventuelles questions.